Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tactics Ogre Reborn, enfin annoncé, la console Logitech/Tencent, des nouveautés sur Pokémon Scarlet et Violet, et tout le reste de l'actu, c'est dans le rendez-vous jeu, tout de suite, avec le générique. Les génériques, j'ai vraiment l'impression que le volume n'est pas assez élevé, en fait, quand je les joue comme ça. Il faudrait que je trouve un système. Bonjour à tous et à toutes, je suis Patrick Béja, on est toujours en été et je fais une petite incursion dans mon émission. Cette semaine, c'est moi qui anime, j'anime tout seul parce que comme je l'ai fait pour le rendez-vous tech, c'est une semaine comme ça, on est tranquilloux, tranquillax. Donc on va faire une petite balade dans les news. Il y a un petit peu plus de news actuelles que je voudrais évoquer que dans le rendez-vous tech pour ceux qui ont écouté cet épisode-là. Mais on va quand même aussi évoquer des news qui m'ont marqué, intéressé pendant l'été, des choses qui sont un petit peu moins récentes, mais qui, je pense, peuvent être intéressantes à noter. Donc, on va faire tout ça également. J'aimerais remercier d'une part JK, SK et Dany qui ont fait un formidable épisode la semaine dernière en mon absence. Quand le chat n'a pas été là, les souris ont dansé. J'aurais quelques petits trucs à dire sur certaines choses dont ils ont parlé dans l'épisode. Et on a un commentaire d'ailleurs sur ce sujet que je vous lirai peut-être. Mais on avait ça, on a aussi... Donc merci à eux, c'était très sympa à JK de reprendre les clés et de faire les choses pendant que j'étais pas là. On a eu aussi deux épisodes spéciaux que vous avez pas mal appréciés et que je vous invite à aller réécouter ou écouter si vous les avez ratés. On a eu un épisode un petit peu académique où on a parlé de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo. C'était vraiment, je le dis et je me rends compte de ce que je suis en train de dire, mais vraiment, c'était vraiment très intéressant. Et on a eu, alors l'épisode sur l'histoire, pour que je dise pas de bêtises, c'était avec Albert et William, c'est ça, Albert Devanve et William Brou, vraiment intéressant, c'était l'épisode 250. On a aussi eu l'épisode sur Trinity, qui est vraiment un épisode sur elle, hein. Vous savez, Trinity, l'une des co-animatrices de l'émission. On a fait son portrait, qui était un exercice, c'est pas complètement nouveau, j'avais fait un petit peu le portrait d'une certaine manière, mais plus du métier d'AlphaCast il y a une petite année de ça. Et là, c'était vraiment concentré sur son parcours à Trinity, et c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Et je suis très content parce que vous avez eu l'air de l'apprécier, et il y a eu beaucoup de retours très positifs sur cet épisode. Et j'espère que vous êtes content de cette formule, parce qu'on risque d'y avoir recours régulièrement, enfin de temps en temps pour des épisodes spéciaux, peut-être en été, ce genre de choses. Mais on a aussi un épisode prévu la semaine prochaine, parce que vous savez que la semaine prochaine, je serai vraiment en vacances avec ma femme, sans les enfants, pendant une longue semaine, enfin une courte semaine. Et c'est la première fois depuis 5 ans, donc bref, je ne serai pas là pour les émissions, mais... On aura un épisode spécial encore qui va présenter, alors je ne vais pas vous dire qui, quoi, comment exactement, mais qui va présenter une animatrice qui va prendre une place régulière dans l'émission. Vous savez que Dany n'a plus beaucoup le temps de participer à l'émission. Eh bien, il y a une personne qui va le remplacer, qui est une journaliste, et on va parler dans cet épisode spécial de son parcours, un petit peu comme on a fait le portrait de Trinity, mais on se concentre un petit peu aussi sur la fin, sur le métier de journaliste de jeux vidéo, et puis le contexte dans lequel elle a évolué toutes ces années. Donc, j'espère que ça sera un épisode qui vous plaira également. C'est un petit peu différent de ce qu'on a fait avec Trinity, mais je pense que ça sera un épisode sympa. Puis on a eu aussi un bonus Slacker. Vous savez, c'est cette tradition où je donne le micro à certains membres de la communauté pour un épisode spécial d'été où ils nous ont fait un état des lieux et plutôt leurs impressions sur les formules d'abonnement aux jeux vidéo, le Game Pass, PS Plus, etc. Et l'influence que ça peut avoir, c'était évidemment très intéressant aussi. Donc, un grand merci à tous ces gens-là qui ont participé à ces émissions spéciales. Et puis bah là, c'est un épisode normal, un petit îlot de fraîcheur avec Patrick tout seul, où on va parler donc de l'actu. Évidemment, avant ça, je remercie les Patriotes qui ont rejoint l'émission pendant ces quelques semaines de vacances, qui n'étaient pas uniquement au chaud, dans à la plage, de sable frais. Non, de sable chaud plutôt, peut-être très très chaud même en ce moment. Les nouveaux Patriotes, c'est Biquecito, Éric Blanquet, Lynx Observateur. Je me demande s'il y a d'autres lynx dans la famille de lynx, genre lynx rognon, lynx à lunettes, etc. Bon, là, c'est Lynx Observateur qui, clairement, est devenu patriote. On a aussi Juliane et Gillian Martin. Merci à vous tous d'avoir rejoint, même pendant l'été, la famille formidable des patriotes. On parlera peut-être un petit peu de la création de contenu dans ce contexte de crise en fin d'émission. Il y avait un article intéressant à ce sujet. Et puis, je veux remercier aussi le producteur de cet épisode, l'inénarrable Steph Sinalco. Sinalco, vous savez peut-être, si vous habitez dans certains pays européens, pourquoi Steph s'appelle parfois Stéphane Cola. Donc un petit coup de chapeau à Stéphane et un grand merci à tous ceux qui participent ainsi à la vie de ce podcast, la vie, le fait qu'il puisse exister. Donc voilà, un petit applaudissement. Ah, j'ai raté, hop, avec wouhou. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Et du coup, bah écoutez, on va parler jeux vidéo, on va parler d'infos, et on se lance tout de suite. Les infos à retenir. On a un gros morceau, les enfants, un gros morceau avec... Il y a des gens qui spéculent dans la chatroom du Twitch, parce que bien sûr, on est en live, comme à chaque fois que je le peux, des gens qui spéculent sur l'identité de la personne que ça pourrait être, qui va rejoindre l'équipe régulière. Dites-moi d'ailleurs, je serais curieux de savoir, dites-moi sur Twitter ou dans les commentaires ou sur Discord, encore mieux. Venez sur Discord nous dire si vous pouvez savoir, si vous pouvez deviner de qui il s'agirait. Il n'y a pas eu les effets sonores d'applaudissements, je suis désolé. Bon, bah tant pis, vous les ratez. Dites-moi si vous savez de qui il s'agirait. Je serais curieux de savoir si vous pouvez deviner. Sur le Discord, par exemple, vous pouvez venir, on s'amuse toujours sur le Discord et c'est un bon endroit où traîner pendant l'été. Donc les news, les infos, gros morceau, c'est un jeu qu'on attendait depuis bien longtemps, qui a été annoncé, confirmé, c'est Tactics Ogre Reborn. On en avait des rumeurs depuis un moment, notamment avec le leaks Nvidia, dont je vais parler dans un instant. Mais Tactics Ogre Reborn, c'est quoi pour ceux qui ne sont pas nés il y a bien longtemps? C'est un petit peu... Alors, je ne connais pas le jeu super, super bien, mais il est quand même extrêmement connu. C'est un petit peu un jeu culte légendaire parce que c'est un jeu de Square Enix, de Square à l'époque, qui était un petit peu le premier jeu tactical japonais qui a donné sa formule à ce style de jeu tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un petit peu tous les héritiers de ce jeu-là, Tactics Ogre. En plus, c'était une époque où les jeux sortaient au Japon et pas forcément en France. C'est pas le premier épisode, mais c'est celui qui est... Enfin, en France, en Occident. C'est celui qui est sorti, je crois, 2 ou 3 ans après sa sortie Super Nintendo. Il est sorti sur PlayStation. Et il a vraiment marqué, non pas le grand public, je crois pas, mais les gens qui étaient... qui était fan de ce genre de choses, et il n'est plus jamais ressorti. Et il a ce statut un petit peu culte, comme, alors, moins qu'un jeu comme Live Alive, dont je parlerai aussi tout à l'heure, mais moins qu'un jeu comme Live Alive. Mais quand même, c'est un jeu qui est un petit peu plus connu, parce que Live Alive, personne ne le connaissait. Je vous avoue que moi, j'en avais entendu parler 2 fois jusqu'à sa ressortie sur Switch il y a quelques semaines. Mais Tactics Ogre, il est vraiment énormément apprécié, et beaucoup de gens connaissent Final Fantasy Tactics, sans connaître Tactics Ogre, alors que vraiment Final Fantasy Tactics, c'est l'héritier de Tactics Ogre. Il est sorti quelques années après, et du coup, Tactics Ogre, c'est une légende du jeu de tactique japonais, et il revient, comme on en avait entendu les rumeurs, une version remasterisée, même presque un... Je ne sais pas si on peut dire remake dans ce cas-là, mais il y a quand même beaucoup de choses nouvelles, adaptées et différentes. Et il revient le 11 novembre sur Switch, PS4, 5 et Steam. Pas de version Xbox, si je ne m'abuse. Et il y a donc des graphismes qui sont refaits. Ce n'est pas de la 2D HD, en fait. C'est moins pixelisé que la 2D HD. Moi, ça me fait penser à, vous savez, ces filtres qu'on peut avoir sur les émulateurs. Si vous avez déjà essayé un jeu sur émulateur, on a différents types de filtres et certains lissent un peu les pixels. Ça fait un petit peu penser à ça, un petit peu plus propre quand même, mais ça fait un petit peu penser à ça. Et puis, on a des voice-overs, j'imagine qu'ils seront en différentes langues. Bon, ils sont au moins en anglais. Et donc, c'est un jeu qui est un petit peu plus moderne. Ils disent également qu'on a une mise à jour, mise à niveau de certains éléments de game design. Donc, il est vraiment remis au goût du jour, il semble. Et comme je le disais, bah, c'est un jeu qui va... C'est une nouvelle version qui va permettre à beaucoup de gens de découvrir ce jeu qui a une aura vraiment importante chez les connaisseurs. Donc, Tactics Ogre Reborn a été annoncé là, il y a une heure, au moment où on enregistre cette émission. Et surtout, ça confirme encore un petit peu plus, si c'était nécessaire, le fameux leak NVIDIA de novembre, je crois, 2021, qui est un gros, gros leak de plein de jeux qui étaient censés arriver. C'était un leak de jeux qui devaient arriver sur Steam, je crois, si je ne me trompe pas, et dont, au fur et à mesure, certains jeux sont venus se confirmer. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a plus énormément de jeux qui restent dans la liste qui soient incroyables, mais il y en a un, enfin bon, quelques-uns qui sont attendus comme un nouveau Mortal Kombat, par exemple, ça tout le monde s'en doute, mais il y en a un qui fait particulièrement plaisir à certaines communautés, c'est Final Fantasy IX Remake, qui a été dans cette liste, qui était dans cette liste de rumeurs NVIDIA, dans ce leak NVIDIA, du coup, devrait arriver. Il y a beaucoup de gens qui portent Final Fantasy IX dans leur cœur, qui seraient heureux de pouvoir le refaire, le revoir en version remakée. À voir. Oula. Ma fille s'est blessée. Elle a mal pendant la nuit. Elle se réveille et donc je me réveille. Hier, j'ai dormi 4 heures. Bon, aujourd'hui, ça allait un peu mieux, mais je baille, un peu mieux, mais je baille encore. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, Final Fantasy IX Remake qui devrait arriver un jour, à un moment. On ne sait pas trop combien de temps. On ne sait pas si c'est un remake, genre un remaster ou remake un petit peu sage, ou si c'est vraiment quelque chose de très ambitieux comme Final Fantasy VII Remake, mais bon, ça on verra. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont j'aimerais parler un petit peu plus succinctement, on me précise que Tactics Ogre avait été en remake sur PSP. Bon, la PSP, c'était une console sympa, mais ce n'est pas énormément de gens qui sont... je fais des bisous aux gens qui s'abonnent sur Twitch, qui l'ont essayé sur cette console, j'imagine. Ce n'est pas pour ça qu'on jouait à la console, mais bon. Effectivement, il avait été refait à un moment. Donc, Pokémon a fait un Pokémon Presents hier encore. Et franchement, il n'y avait pas énormément de choses à retenir si on n'est pas super méga fan de Pokémon. Il y a des infos sur les championnats de Pokémon, des infos sur Pokémon Go, des infos sur Pokémon Unite. Bon, le truc qu'on retiendra peut-être, c'est des infos sur Pokémon Scarlet et Violet. C'est écarlate et violet, je crois, en français. Alors, il y a un nouveau... C'est pas un nouveau type de Pokémon, c'est des Pokémon terracristallisés qui peuvent gagner des nouvelles propriétés. Donc, ça a l'air d'être assez important pour le gameplay et ça change la manière dont on gère ces équipes. Et puis surtout, ils ont appuyé encore un petit peu sur l'aspect monde ouvert. On aura même les nouveaux types de Pokémon qui seront des moyens de transport. C'est des sortes de motos, les deux nouveaux Pokémon du jeu. Et vraiment, ils ont insisté sur l'aspect monde ouvert. Alors, une des choses qui me marque, moi, c'est une chose qu'on voit de plus en plus, hein, c'est l'âge de la Switch qui commence vraiment à se faire sentir. Malheureusement, les graphismes restent très, très sages. Alors, c'est moins moche que Arceus, mais c'est quand même pas incroyable. Il serait temps que cette Switch Super Switch arrive. Mais bon, ça, c'est une autre question. L'aspect monde ouvert est vraiment, là, pour le coup, assumé. C'est un jeu en monde ouvert. Et ils ont renoté le fait qu'il y avait une option pour jouer en coop. Et ils disent vraiment, tout ce que vous pouvez faire en solo, vous pouvez le faire en coop. Donc, à la limite, ça, c'est presque un plus gros morceau que le monde ouvert. C'est un aspect du jeu qui est vraiment différent. Bon, le monde ouvert, c'est important aussi, évidemment. Mais le fait qu'on puisse le faire en coop, c'est assez surprenant. Je me demande si ça sera pas enfin le premier Pokémon que je vais faire avec assiduité. Je me suis lancé dans une autre série japonaise que je ne connaissais pas, dont je vous parlerai tout à l'heure, ou que je ne connaissais pas bien. Et j'ai envie de découvrir en fait ces choses-là. Peut-être que Pokémon Scarlet ou Violet, ça sera mon premier Pokémon. On verra, en monde ouvert, c'est suffisamment familier pour que, pour que je m'y sente à l'aise. On verra, ça c'est en novembre qu'il arrive, Pokémon. C'est le 18 novembre, exactement. Bon, il y avait d'autres infos sur d'autres Pokémon, mais je vous avoue que c'était un peu moins intéressant. L'autre info qui, là, pour le coup, est surprenante, c'est cette annonce de Logitech qui s'allie, enfin Logitech G plutôt. Logitech G, qui est la sous-marque gaming de Logitech. Entre parenthèses, j'ai pas mal de matériel de chez eux. Il y a deux boîtes dont j'ai beaucoup de matériel, c'est Logitech et Elgato, et je suis toujours hyper satisfait de la qualité de leur matériel. Et j'attends d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir des claviers sans fil à recharge avec USB-C, ils viennent de commencer à en sortir quelques-uns, une nouvelle gamme. Donc j'attends les anciennes qui soient adaptées en USB-C et je refais mon, parce que les miens, regardez. Ça, c'est une touche, là, vous l'entendez. C'est une touche de mon clavier qui a sauté. J'en ai deux ou trois qui ont sauté, mais je ne veux pas en changer pour ne pas gâcher et puis pour attendre les trucs en USB-C. Bref. Ils ont annoncé une console. Oui, je perds le fil. Logitech G et Tencent ont annoncé une console dont on ne sait rien encore. On n'a ni le format, ni quoi que ce soit. Si ce n'est, un élément quand même très important, c'est une console dédiée au streaming. Donc vraiment, une console qui ne fera pas de jeux en local, mais qui va travailler en partenariat avec Microsoft pour intégrer le Xbox Cloud Gaming et Nvidia pour intégrer le GeForce Now. Alors, il n'y a pas d'infos d'autres fournisseurs de services du type Stadia, Luna ou évidemment PlayStation Plus, qui fait du streaming désormais. Avec le PlayStation Plus, c'est quoi? C'est le Premium. Mais ils auront donc une console qui devrait arriver dans... Ils viennent de l'annoncer, donc on imagine un an, peut-être un petit peu plus. Une console dédiée au streaming, ce qui est une idée relativement intéressante, mais qui est quand même assez casse-gueule. Le truc, c'est qu'évidemment, quand on parle streaming, pour ceux qui n'ont pas essayé ces technologies depuis un moment, vraiment, ça fonctionne. Aujourd'hui, le streaming, c'est une option qui est utilisée, on va dire, en parallèle des options habituelles de console ou PC pour jouer à des jeux à certains moments. Mais quand on a une connexion qui fonctionne bien, eh ben, ça fonctionne super bien. C'est une option qui est complètement viable pour jouer à ces jeux. Alors évidemment, les gamers snobs que nous sommes préfèrent jouer en local, et ça se comprend, mais jouer en streaming, c'est complètement valide. Et dans le cas d'une console portable de streaming, ça ne serait pas votre machine principale, hein, on s'en doute, ça serait là aussi une option supplémentaire pour jouer à vos jeux quand vous n'êtes pas à la maison, par exemple, ou quand vous voulez jouer dans le lit. Et si jamais ils réussissent leur coup, ça pourrait faire quelque chose qui fonctionne. Parce que si ils font uniquement du streaming, ils n'ont pas besoin d'avoir un processeur qui coûte cher. Et donc, ça peut... Enfin, un processeur et des trucs internes qui coûtent cher. Parce que processeur, pas besoin d'un truc très fort. Mémoire, pas besoin de beaucoup de mémoire. Batterie, pas besoin d'énormément de batterie. Ou alors, on a énormément de durée de vie de la machine avec une batterie de taille habituelle. Évidemment, il faut un bel écran ou un écran correct au minimum, donc ça peut coûter un petit peu cher, mais imaginez une bestiole comme ça qui coûte 250 €. Le truc, c'est qu'il faudrait une connexion 4G. 4G, 5G, ce que c'est? Parce que uniquement en Wi-Fi, ça serait quand même un petit peu problématique, évidemment, puisqu'on pourrait l'utiliser en 5G quand on n'est pas chez nous. Je pense que ça, c'est nécessaire, mais tout ça peut faire un package qui n'est pas trop, trop cher, je crois. Si la Switch réussit à être vendue à 300 €, ils vont bien nous la faire à 200, cette console. En même temps, je dis ça, mais il faudrait un moyen de récupérer de l'argent sur cette machine. Parce que Tencent et Logitech, ils ne vont pas faire ça pour l'offrir aux gens sans gagner de l'argent. Alors que Nintendo, ils peuvent, même s'ils gagnent de l'argent sur la console elle-même, ils gagnent surtout de l'argent sur les jeux, ce qui serait a priori pas le cas de Logitech et Tencent. Et Tencent, ni Logitech ni Tencent, ils font ça gratuitement. Peut-être qu'ils pourraient faire un deal avec Microsoft et Nvidia et les services qui veulent aller sur la machine pour récupérer un petit peu des sous, des abonnements de ceux qui utilisent la machine. Ça pourrait être imaginable, mais dans tous les cas, je crois que s'ils la sortent à, on va dire, 200€ et qu'elle est correcte, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, d'autant plus si on a de l'USB-C qui permet, par exemple, de brancher très simplement, sans paramètres, de brancher sur un écran et de connecter en Bluetooth un contrôleur correct ou même de l'utiliser comme contrôleur en branchant sur l'écran, ce genre de choses. Ça ouvre certaines possibilités. Donc, moi, je me dis que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, quand même relativement niche, évidemment. On se doute bien que c'est une machine dédiée qui fait un truc que peut déjà faire un téléphone avec, par exemple, un contrôleur Backbone, qui fonctionne super bien, le Backbone. Donc, c'est quand même un truc qui serait pour un public très, très spécifique, mais peut-être que technologiquement et au niveau rapport qualité-prix, ça pourrait être un truc cool. Si jamais il y a aussi le PS Plus, je pense que ça serait nécessaire. Peut-être Luna, s'il arrive en Europe un jour, ça pourrait être sympa. Bref, il y a des possibilités. C'est une idée intrigante. Je suis curieux de voir ce que ça donnera dans la pratique. À ce stade, on n'a vraiment aucune autre info. Quoi d'autre ? Il y avait l'Annapurna Interactive Showcase. L'Annapurna Interactive, éditeur vraiment intéressant. Qui a conquis, je crois, le cœur de la plupart des joueurs au cours des, 5-6 dernières années. Je crois que c'est l'un des seuls éditeurs qui a réussi à convaincre tout type de joueurs. Alors, bien sûr, il y a toujours les joueurs qui vont jouer uniquement à Call of Duty et FIFA dans l'année, et cela, c'est une catégorie à part, même s'ils représentent la majorité d'entre nous. Mais je crois qu'il n'y avait pas vraiment, peut-être à la limite, Devolver, mais Devolver, ils font des jeux tellement particuliers que je crois qu'ils ont une place à part. Annapurna, ils font des jeux dont tous ceux qui en ont essayé quelques-uns, c'est devenu un label auquel on fait attention, en fait. Quand on voit Annapurna, encore une fois, Devolver est un petit peu dans cette même cour aussi, mais quand on voit édité par Annapurna, on se dit « Ah ben, il faut que je regarde de quoi il s'agit. Je vais au moins m'y intéresser, parce que tout ce qu'ils ont choisi d'éditer jusqu'ici, c'était des choses au minimum intéressantes et au mieux, des jeux incroyables. » Donc, ils ont montré, ils ont eu leur showcase, c'était leur deuxième showcase. Je vous avoue que c'était peut-être un petit peu moins explosif que les années précédentes. Il y a quelques trucs à en retenir quand même. Il y a quelques jeux qui sont notables. Alors, encore une fois, Thirsty Suitors, qu'on a déjà vu ici et là, qui reste un jeu qui a l'air hyper intéressant, où on retourne dans notre ville natale et puis on doit faire face à nos ex, un petit peu comme dans... Merde, bon, le chat va me retrouver le nom, je ne retrouve plus la BD que j'adore en plus. Scott Pilgrim. Ah, j'ai réussi. Scott Pilgrim, voilà. Mais bon, sur un thème vraiment... sur un style vraiment particulier, très, très séduisant. Donc on a Thirsty Suitors qui a été représenté un petit peu plus en détail. Hindsight, qui est un jeu sur le deuil d'un enfant, je vous avoue que ça a l'air intéressant. Ça ne sera pas pour moi, parce que non merci, mais ça a l'air quand même intéressant. Et puis, il y avait Bounty Star, The Morrow's Tale of... The Morrow's Tale of Graveyard Clem, qui est un jeu dans le Far West qui a l'air un petit peu bizarre avec des mecs. C'est une sorte de FPS Far West mec. Pourquoi pas. Enfin, TPS plutôt. Pourquoi pas. Ça peut être intriguant. Et puis surtout, encore une fois, c'est Annapurna. Quelques autres jeux comme ça. Et L'autre chose notable, bon, y a un nouveau jeu de Keita Takahashi, qui est le développeur, le réalisateur de Katamari Damacy. Bon, moi, je vous avoue que Katamari Damacy, ça m'a pas non plus marqué plus que ça. Et puis, on n'a rien vu du jeu. Donc ça reste une petite annonce d'annonce, presque. The Lost Wild, qui est un jeu de dinosaures, enfin, un jeu dans un monde envahi par les dinosaures, qui a l'air post-apocalyptique, mais où il faut fuir et observer les dinosaures. C'est pas qu'on va se battre contre eux, il semble. Qui a l'air d'ailleurs d'être un jeu au graphisme extrêmement réaliste, qui n'est pas courant pour Annapurna. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils présentent les développeurs. Ils ont eu plusieurs segments où... Alors, ça enchaînait les jeux, mais ils ont aussi eu quelques segments où ils présentaient les développeurs eux-mêmes, les équipes, des interviews, comme on en a vu peut-être dans le plus proche de ça. C'était les conférences du Summer of Games du Tribeca Games Festival. Alors, je ne veux pas être médisant, mais ça fait bizarre de voir des choses aussi... Alors, c'est forcément travaillé, hein, ils travaillent une certaine image, une certaine manière de présenter les gens... Mais c'est hyper, bah justement, c'est Tribeca Game Festival, c'est un petit peu, regardez comme on est des indés. Regardez comme on est indie, et c'est vraiment dans ta face. Autant que les AAA sont, regardez comme on est des AAA, là, c'est regardez comme on est des indies. Un truc qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ressemblent à des gens normaux. Genre, ils sont pas tous maquillés, machin, c'est marrant. Mais c'est normal, parce que regardez comme on est des indies, bah c'est des indies. Donc, c'est normal qu'ils se présentent comme des indies. Mais c'est marrant quand même à quel point, même les jeux, je vais vous avouer, on commence à avoir, je ne sais pas si c'est cette génération ou un style qui va rester, un style graphique qui fait indie. Un truc qui est beau, hein, qui est des couleurs un petit peu pastel, des modèles 3D relativement simples, une sorte de, parfois, de mini cel shading, qui est sympa, mais on commence à l'avoir tellement vu. Je comprends un peu, en fait, les réactions qu'ont certains face au triple A, qui se disent « Oh là là, mais encore du triple A qui t'en met plein la gueule, avec le héros musclé et les grandes scènes, les set pieces d'action, tout ça. C'est bon, quoi. J'en ai assez vu. » Et ben là, ma réaction, c'est un petit peu... Il y a sûrement des jeux super bien. J'ai passé la 5 minutes à dire du bien d'Annapurna. Mais c'est un petit peu « Ok. » Encore un jeu indé, on a ce type de traitement, de ce type de sujet, avec ce type de graphisme. Je ne sais pas, j'ai l'impression que on a presque une uniformisation de certains éléments du jeu indé, de la même manière qu'on a une uniformisation de certains éléments des jeux AAA. Ce qui est ironique, parce que le jeu indé, justement, c'est censé être des choses qui ne font pas les choses comme les autres. Mais il y a tellement... De jeux qui sortent, forcément, à un moment, il y a des tendances qui ressortent, des choses qu'on copie ou dont on s'inspire d'un élément à l'autre, ou d'un jeu à l'autre. Et l'une des choses qui me marque aussi, c'est à quel point, ça va peut-être main dans la main, c'est à quel point ces choses-là sont artistiques. C'est-à-dire que, au-delà de la présentation des jeux, la réflexion de conception des jeux, la manière dont ils vont approcher les propos et le design des jeux, c'est plus vraiment une nouveauté de dire ce genre de choses, mais il n'y a plus aucun doute sur la capacité aux jeux vidéo de créer des œuvres d'art. Et je crois qu'on est dans cette période encore un petit peu de transition où certains se disent... Enfin, la question ne se pose plus, mais on a encore envie, pour certains d'entre nous, de s'émerveiller du fait qu'il n'y a plus de doute sur le fait que le jeu vidéo peut être une forme d'art. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais on a eu pendant, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, des questions qui se posaient sur ce sujet, et peut-être qu'elles étaient plus légitimes à l'époque qu'aujourd'hui. Mais le fait qu'on puisse aujourd'hui affirmer, sans controverse, de la part de la plupart des gens, il y aura toujours des gens un petit peu réactionnaires qui vont vous dire le contraire, mais le fait qu'il n'y ait plus de doute sur l'idée que le jeu vidéo est un art, c'est quand même un petit peu réconfortant comment dire, c'est presque un achievement pour nous qui l'avons vu naître, pour ceux d'entre nous qui ont grandi avec, en fait. Donc, et c'est très, très clair quand on voit cette présentation de Annapurna que la chose est avérée, quoi. Donc, voilà, pour l'Annapurna Showcase. Et enfin, une dernière note d'actu sur le fait que on nous dit dans la chatroom, si tu te lances en tant qu'indé sans idée originale, ben tu copies les autres indés. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas des idées originales. Hein. Ce qu'on a vu à l'Annapurna Showcase, il y avait des idées qui avaient l'air originales. C'est juste que stylistiquement, il n'y a pas mille manières de faire un jeu. Et il y a tellement d'activités, d'effervescence autour des développeurs indépendants. On a, bah, comme vous le savez, hein, des milliers de jeux qui sortent chaque année. On a forcément vu ce style graphique ou ce style de réalisation presque, de design, quelque part. C'est difficile d'avoir quelque chose de véritablement complètement différent, même pour un jeu comme Outer Wilds, qui est vraiment une expérience qu'on n'a jamais vue ailleurs. Alors, graphiquement, c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'alors, mais il y avait, c'était quand même un truc qui n'était pas... Je crois, peut-être que je m'en souviens plus au moment de sa sortie, c'était il y a quoi, 3 ans. Graphiquement, j'ai l'impression que l'originalité ne venait pas du rendu graphique, par exemple. Donc, c'est difficile de faire vraiment super, super original. Il y a eu quelques trucs. Hein. Il y a eu quelques trucs, je me souviens de... C'est quoi, c'est ce jeu de skate ? Skate Story, qui a été présenté pendant le Summer Game Fest. Ça, c'était graphiquement assez incroyable. Un petit peu psychédélique, mais vraiment incroyable. Mais je pense que c'est difficile. Donc. Et puis, évidemment, pour des questions de budget, les développeurs indés vont se diriger vers des choses qui vont finir par se ressembler un petit peu, parce que pour des questions de budget, on a tel type de choses qu'on peut faire. Bref. On en reparlera, je suis sûr. Et donc, la dernière chose que je voulais noter, c'est qu'il y a l'Evo ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, l'Evo, c'est le tournoi Evolution Tournament. C'est Evo Evolution, c'est ça ? Pas de bêtises. Bref, c'est l'Evo, qui est en live pour la première fois depuis plusieurs années, évidemment, à cause de la pandémie. C'est le plus grand... je vais essayer de retrouver les infos de la page web. C'est le plus grand tournoi de jeux vidéo du monde. Il a lieu du 5 au 7 de ce mois-ci, d'octobre, donc d'août, donc vraiment à partir de demain. Donc il devrait y avoir d'une part des annonces de jeux vidéo à l'ouverture. On imagine des updates sur Street Fighter 6, peut-être de nouveaux personnages, j'imagine, un classique et un nouveau. Peut-être des personnages pour King of Fighters, pour Guilty Gear, ce genre de choses. On sait qu'il n'y aura pas de Mortal Kombat, Ed Wood l'a annoncé. Mais peut-être aussi Tekken 8, on l'attend énormément, c'est pas sûr, mais ça serait une occasion d'annoncer quelque chose. Bon, à voir, mais au-delà de ça, c'est vraiment, je vous en parle de temps en temps, hein, de l'Evo, c'est un tournoi incroyable parce que c'est un tournoi ouvert. Enfin, c'est une série de tournois ouverts. Ils ont, je ne sais même plus combien de jeux, genre 7, 8, 9 jeux dans leur catégorie de jeux. Enfin, il y a plein de jeux qui sont présentés. Il y a une dizaine de stages, de scènes différentes. Et ils sont complètement ouverts. C'est-à-dire qu'au moment, et peut-être un petit peu avant le tournoi lui-même, l'événement lui-même, on a des milliers de personnes. Alors, il y a des jeux, évidemment, qui sont plus populaires, donc il y a plus d'inscrits que dans d'autres jeux. Mais il y a des milliers de personnes qui viennent pour faire leur tournoi, pour entrer dans la compétition. Et c'est donc des salles immenses, pleines d'ordinateurs et de consoles, surtout, dans lesquelles les gens vont aller chercher la personne avec laquelle ils vont devoir faire leur compétition, machin. Et on se retrouve à la fin, du coup, j'imagine qu'il y a des invités quand même parmi les plus gros pour qu'ils soient sûrs d'être dans les, je sais pas, le top 32 ou ce genre de choses, mais n'importe qui peut monter et se qualifier pour gagner dans ces tournois-là contre les meilleurs du monde. Et c'est alors des jeux de combat dont vous avez certainement entendu parler pour certains, comme Street Fighter ou Tekken, mais il y a aussi des trucs un petit peu plus obscurs que les gens qui ne font pas partie de la FGC Fighting Game Community ne connaissent pas forcément, genre Skullgirls, Melty Blood, ce genre de choses. Guilty Gear, évidemment, enfin, ce genre de trucs. Il y a Dragon Ball FighterZ aussi, peut-être qu'on aurait un truc pour Dragon Ball FighterZ, quelque chose comme ça. Mais oui, tiens, il y a Von Yaourt dans la chatroom qui dit « Pas d'invité, il y a du seeding, mais tout le monde commence au même niveau. » Du seeding, alors ça veut dire que si Daigo va à l'Evo, ce qu'il fait, il doit commencer au tout même niveau que tous les autres participants, c'est-à-dire qu'il doit se taper les poules 3 jours avant. Ça me surprend, je me disais, il est... Alors c'est peut-être ça dont tu parles avec le seeding, genre il commence dans les 64 meilleurs ou les 34 meilleurs. Il doit sortir des poules. Eh ben, je suis surpris d'apprendre ça. Bah, comme quoi, vous voyez, l'Evo, c'est la démocratie du jeu de combat. Merci, Von Yaourt, merci Maxime, pour ta précision. Donc, si vous n'avez rien à faire ce week-end et que vous voulez un petit peu, vous voulez voir un petit peu d'e-sport facile à comprendre, eh bien, vous pouvez... Oui, donc c'est ça, les têtes de série servent juste à éviter que les meilleurs ne se rencontrent au début. D'accord, merci pour cette explication. Un petit peu d'eau, j'ai la gorge sèche. Ce qui est cool avec les jeux de combat, c'est que c'est vraiment facile à comprendre. Si vous n'avez rien à faire ce week-end... Vous lancez Twitch, vous regardez l'Evo, et dans tous les jeux, vous allez comprendre ce qui se passe, parce que c'est deux personnes qui se battent avec deux personnages à l'écran, et celui qui tape le plus l'autre, il a gagné à la fin. Et d'ailleurs, il n'y a même pas, Smash, le Super Smash Bros., parce que Nintendo ne veut pas travailler avec Sony, qui a racheté l'Evo. Bon, c'est pas que pour ça, hein, mais Smash, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu différent. Là, il y aura que des jeux où c'est un personnage contre un personnage, celui qui tape le plus a gagné. Donc, facile à comprendre, c'est une bonne introduction dans l'e-sport. Ce week-end, ne vous privez pas. Et du coup, quelques news que j'ai retenues ces dernières semaines, pendant mes vacances, sur lesquelles je vais passer un petit peu plus vite. Mais puisqu'on parle de jeux de combat et de Smash-like, il y a Multiversus qui a lancé son... c'était son test. C'était fermé, je crois, le Multiversus. Multiversus, c'est le Smash-like de Warner Brothers. Avec, vous savez, tous les personnages de Warner Brothers, ce qui est un petit peu bizarre, parce qu'on se retrouve avec des combats où il y a Batman qui se bat contre Arya Stark, qui se bat contre... je sais pas moi, Bugs Bunny, donc c'est un petit peu étrange, mais c'est un jeu qui a eu énormément de succès. Alors c'est un free-to-play, donc forcément c'est facile d'avoir beaucoup de joueurs, mais il y a eu 144 000 joueurs en simultané sur Steam, alors que les plus gros jeux de combat de l'histoire, sur PC, hein, on parle du PC uniquement, mais les plus gros jeux de combat de l'histoire, ou en tout cas ceux qui ont réuni le plus de monde, les pics, c'était genre Dragon Ball FighterZ avec 44 000 personnes. Sur PC uniquement, encore une fois, genre Street Fighter V, il a fait 13 000 personnes. Ça me paraît pas beaucoup, hein, pour un jeu comme Street Fighter. Mais voilà, et Multiversus, il a fait 144 000. Et c'est pas le seul jeu de... Alors c'est le... Comment ils appellent ça? Les Arena Brawler? Je sais plus comment ils appellent. Les Smash-like. C'est marrant parce que je me souviens, il y a pas si longtemps, peut-être 2 ans, je disais, dans les jeux de combat, il y a des jeux de combat classiques, et puis un truc bizarre, un ovni qui est comme aucun autre, c'est Smash. Et c'est marrant parce que depuis, il y a eu genre 5 jeux Smash-like qui sont sortis et qui ont connu pas mal de succès. Donc maintenant, le Smash-like est vraiment comme le Street Fighter-like, parce que tous les jeux de combat aujourd'hui sont plus ou moins des Street Fighter-like. On pourrait mettre les jeux de 3D de côté, mais quand même... Et du coup, maintenant, il y a des Smash-like, et il y en a pas mal. Donc, Multiversus, qui sort vraiment... il sort quand? C'est en août, là? Le 9 août, voilà. C'est le 9 août qu'il commence, donc si vous voulez le tester, vous pouvez le tester gratuitement sur console et PC. Il n'est pas que sur PC, évidemment. Mais il est sur... pas sur Switch, mais sur PlayStation 4, 5 et Xbox Series et One. Bon, donc voilà pour Multiversus. Bayonetta 3, on a eu une date pour Bayonetta 3. C'est quand? C'est le 23 octobre que je dis... C'est quand? Je ne sais plus. 28 octobre. Ah, j'y étais presque. Mais ce n'est pas ça que je veux noter. Alors, 28 octobre, c'est très bien. Hein, Bayonetta arrive, ça ajoute encore au... Alors, Le mois d'octobre est un peu fou, il y a eu un truc qui a été décalé, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a quand même beaucoup de folie. On disait dans l'épisode précédent où j'étais que c'était le Octoberpocalypse, et papa à quoi tu joues, Jean, a tweeté, il croyait que j'allais l'oublier, ça date du 1er juillet, il a tweeté quelque chose d'assez intelligent, c'est pas le Octoberpocalypse, mais le Stormoctober. Pas bête ça, Stormoctober. Mais bon, Octoberpocalypse, maintenant on a les Pocalypse, donc, mais je voulais le noter quand même, Stormtober. Donc, Bayonetta 3 vient s'ajouter au Stormtober ou au Octoberpocalypse. Mais ce que je voulais noter, c'est que les développeurs japonais évoluent petit à petit, lentement, mais ils évoluent. Vous savez que dans Bayonetta, l'un des trucs qui était un petit peu gênant, c'était le niveau de nudité du personnage. Alors, quand elle faisait ses transformations, elle était un petit peu à poil et parfois il y avait des angles de caméra un petit peu coupables peut-être. De tout ce que j'ai entendu, moi, des joueuses qui apprécient Bayonetta, c'est plutôt empowering que le jeu en lui-même est plutôt l'effet se sentir badass que autre chose. Donc c'est pas vraiment une chose qu'elle critique énormément, j'ai l'impression, hein, des témoignages que j'ai eus. Mais il n'empêche, Platinum a décidé que peut-être c'était pas forcément adapté à tout le monde, et c'est pas qu'ils ont supprimé ces plans-là, mais ils ont ajouté une option Naive Angel Mode, qui est un mode révolutionnaire, selon leurs commentaires, qui est plutôt rigolo, où les personnages en question sont un petit peu plus vêtus. Donc on a l'option d'activer un truc qui fait qu'au lieu d'être à moitié à poil et en maillot de bain tout le temps, ou presque tout le temps, eh bien on peut avoir des personnages vêtus un petit peu normalement dans des tenues de combat un petit peu plus décentes. J'ai trouvé ça... Bon, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience, même au Japon, qui est très en retard sur ces questions souvent, qu'il y a une prise de conscience de ces sujets. Et bon, on va dire qu'une option pour le faire comme ça, moi je crois que... Alors c'est une option qui est off par défaut, j'imagine, qui permet de l'activer si on veut jouer en face des enfants sans qu'on ait droit à des questions ou des remarques outrées. Mais c'est peut-être une bonne première étape. Moi je pense que ça serait pas mal de l'activer par défaut peut-être, ou même de considérer la chose dans le développement à la base, mais quand même, bonne chose je trouve. Donc ça m'avait marqué dans les annonces sur Bayonetta 3. On a aussi Gotham Knights qui a le trailer de son dernier personnage, alors qui n'est pas franchement incroyable. Le jeu, vous savez ce que j'en pense depuis l'annonce, enfin, ou plutôt depuis les premiers trailers qu'on a vus, j'étais un petit peu refroidi sur le jeu, alors que je suis un super fan des Batman Arkham. Et bien là, le personnage de Batgirl, en tout cas le trailer, était assez excitant, assez cool. Et du coup, je me suis dit, finalement, peut-être que le jeu sera bien, on ne sait jamais. Et en revoyant le trailer, en y réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas que le jeu a l'air différent, c'est juste que le montage, la vidéo, est hyper bien faite. et c'est vraiment, on se rend compte à quel point avoir une bonne vidéo, un bon montage, c'est hyper important pour présenter ton jeu qui est peut-être médiocre dans des bonnes conditions. Et ça ne présente pas autant les pouvoirs de Batgirl qu'on avait les pouvoirs de Red Hood, Robin, et etc. Mais du coup, ça donne quand même envie de jouer au jeu. Donc, on verra ce que donne le jeu. Il sort lui aussi en octobre, si je ne me trompe pas, le 25 octobre. Donc, on verra ce que ça donne quand il sort. Mais vraiment, le montage, il était cool, alors que les autres... C'était moins ça. Je voulais aussi noter l'annonce de Raven's Watch. Raven's Watch, c'est le nouveau jeu de Pastèque Games. Et Pastèque Games, je suis sûr que vous n'en avez pas entendu parler, ou pas beaucoup. Mais c'est les développeurs d'un jeu qui m'avait beaucoup plu l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Curse of the Dead Gods. Était un roguelite assez classique, en fait, qui ressemblait beaucoup à un mélange d'autres roguelites qu'on avait connus jusque-là, mais que j'avais vraiment aimé. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et ils ont, bon, le jeu a pas l'air d'avoir fait d'avoir eu un succès incroyable, mais ils ont annoncé Raven's Watch, qui est un jeu d'action, on va dire un action RPG, qui semble utiliser beaucoup de ce qu'ils ont appris dans Curse of the Dead Gods. Donc, action vue de dessus, un petit peu, c'était un petit peu Hades, Dead Cells, vu genre Hades, et encore une fois, il était très cool. Et là, donc, on reprend ça avec jeu à plusieurs, en coop. Et ça a l'air, bah, vu leur expertise sur le jeu d'action qu'ils ont prouvé dans Curse of the Dead Gods, du coup, moi, je l'attends pas mal. Enfin, j'attends de voir. Il va arriver en accès anticipé, a priori, début 2023. Et je le suivrai avec une grande attention. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series, donc pas sur les anciennes générations, mais ça sera du coup pas pour tout de suite, hein, puisqu'il commence son développement, enfin il a sa sortie en accès anticipé début 2023, donc on imagine une sortie pas avant 2024. Voilà pour Raven's Watch. Et puis juste une des choses que j'ai constaté encore une fois pendant ces vacances, c'est à quel point, jusqu'à maintenant, j'espère que j'aurai plus de temps pour jouer maintenant, parce que bon, les enfants sont de retour à la crèche, et, changement incroyable, ils sont à la crèche toute la journée. Avant, ils revenaient à la maison un petit peu plus tôt, maintenant, ils restent jusqu'à la fin de la journée à 5 heures, donc j'ai un petit peu plus de temps, je pense, donc j'aurai, j'espère, plus de temps pour jouer, parce que c'est pour le travail, hein, vous savez, c'est pour le boulot. Mais Destiny, enfin Bungie, a annoncé qu'ils annonceront les nouveautés de la prochaine extension le 23 août. Et je me suis retrouvé à être hyper excité de suivre cette annonce, parce que, d'une certaine manière, l'une des manières dont je vis ma passion du jeu vidéo aujourd'hui, c'est en jouant au jeu, bien sûr, mais aussi en regardant des présentations. C'est un petit peu le plaisir de l'E3 ou du Summer of Games ou de l'ETJV qui s'exprime comme ça par le fait de regarder des jeux ou des présentations de jeux. Et donc, j'étais hyper excité de voir, pour un jeu que j'aime en plus, hein, Destiny, parce que j'ai pas trop eu le temps de jouer à Destiny ces derniers mois, mais je regarderai la présentation du 23 août et je serai super excité, évidemment. Il y a aussi eu deux jeux qui sont sortis ces dernières semaines. Xenoblade Chronicles 3, qui a eu de très bonnes notes, très bons tests, et Live Alive, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un jeu vraiment particulier. Alors, les deux sont sortis sur Switch. Live Alive, ils en ont parlé dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas refaire un gros topo dessus. Si ce n'est pour dire une chose qui a été oubliée, je crois, qui est que, en fait, le jeu présente 8 aventures différentes et indépendantes qu'on peut commencer et arrêter quand on veut, en fait, passer de l'une à l'autre. C'est un jeu qui était sorti il y a très très longtemps, hein, années 90 peut-être, qui a été remaké de Square Enix. C'est un RPG dont chaque histoire, en fait, se déroule à une époque différente, et chacune a un système de jeu un petit peu ou très différent. Et puis bon, après, il y a des choses que je ne connais pas, mais qui sont spoilerifiques et qu'on peut imaginer. C'est des histoires indépendantes. On imagine qu'il y a un truc qui les lie à la fin. Mais c'est un jeu qui était vraiment particulier et, là encore, qui était une sorte de gemme oubliée, un petit peu comme Tactics Ogre, peut-être encore beaucoup plus oublié, parce qu'il n'avait pas eu de sortie en Occident du tout. Et il est maintenant disponible et il a été hyper bien noté un petit peu partout. J'ai eu très envie de me le prendre, mais je n'ai pas trop eu le temps parce que je me suis consacré à autre chose, comme je vais en parler dans un instant. Mais il y a une démo Live Alive, donc si vous voulez le tester, il y a une démo sur Switch que vous pouvez aller télécharger avec le début de 3 chapitres différents. Donc voilà pour les sorties pendant ces quelques dernières semaines. Je vais du coup vous parler des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps. Mais avant ça, je voudrais vous lire le commentaire de K. Maréchal, qui nous a laissé un commentaire sur iTunes, Oui, iTunes Belgique. Je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué sur la Belgique. Qui nous dit « Bravo, en tant qu'utilisateur de Google Podcast, je prends la peine de me connecter sur Apple Podcast simplement pour signaler que ce podcast est excellent. Patrick est un très bon animateur. Les sujets sont variés et très intéressants. Patrick n'hésite pas à aborder des sujets qui peuvent fâcher certains publics, parfois au détriment de sa note de podcast. » Merci beaucoup K Maréchal, merci d'avoir fait l'effort d'ailleurs de te connecter à Apple Podcast alors que tu es un utilisateur de Google Podcast. J'apprécie énormément, et si vous aussi vous appréciez l'émission, vous pouvez aller laisser une note sur iTunes ou sur l'application de podcast que vous utilisez, ou alors soutenir sur Patreon. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux. Comme certains ne s'en souviennent pas, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure « Ah, tu peux me redonner le lien du Patreon ?» Je ne sais plus si je le disais en début d'émission ou avant qu'on lance l'enregistrement. « Tu peux me donner le lien du Patreon ?» Je ne sais plus comment on fait pour redevenir Patreon. Et donc, clairement, ça veut dire que je ne le mentionne pas assez, ce lien. C'est patreon.com/rdvjeux. Patreon.com/rdvjeux. Il est dans toutes les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, les jeux auxquels j'ai joué ces dernières semaines. Il y en a eu quelques-uns. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire. Je ne sais plus si j'avais dit, mais j'ai fini Final Fantasy VII Remake. J'en parlais, je crois, la dernière fois. Mais j'ai surtout... Je vais parler de ça. Je vais parler de Tales of Arise, parce que j'ai repris Tales of Arise. Et j'en avais joué une dizaine d'heures, peut-être, quelque chose comme ça. Une dizaine d'heures environ. Et j'avais arrêté parce qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées dans la vie. Et j'avais arrêté Tales of Arise. Et du coup, je l'ai repris. Et je suis quasiment à la fin, là. Je suis vraiment à quelques heures de la fin, je dirais 4 heures de la fin. Et bon, c'est un jeu, c'est un JRPG de la série des Tales of. Et donc, ça dure forcément 50 heures, le jeu, 40-50 heures. Et c'est une série, comme je le disais tout à l'heure avec Pokémon, c'est une série que je ne connaissais pas, qui n'est pas hyper connue en Occident. Dany m'en avait dit beaucoup de bien, donc forcément je l'ai évité comme la peste, mais avec Tales of Arise, qui est vraiment une version dans laquelle Bandai Namco, hein, je ne dis pas de bêtises, avait mis beaucoup d'argent et d'espoir, je crois. C'était leur jeu qui allait... Oui, c'est bien Bandai Namco. Bandai Namco, c'est pas facile. Et c'était vraiment l'idée d'ouvrir la série à un public plus large, et ça a marché avec moi. Et du coup, je voulais le finir et je me suis dit, allez, ça suffit, je vais me relancer dedans. Et j'ai du coup, contrairement à Final Fantasy VII Remake, pour lequel j'étais un petit peu dans la même configuration, et quand j'y suis revenu, j'étais quand même assez déçu de ce que j'y ai retrouvé, alors que je me souviens l'avoir beaucoup aimé quand je l'avais commencé. Et ben, Tales of Arise, c'était le contraire. Ça a mis un petit moment pour se replonger dedans, parce que le système est très différent de ce qu'on connaît ailleurs. C'est vraiment les combats, c'est de l'action, mais action à fond. Il n'y a pas du tout de... Enfin, très peu, même, allez, quasiment pas de mécanique de RPG classique. Et tout le système, c'est de faire des... En tout cas, avec le personnage principal que je joue beaucoup, de faire des combos et de réussir à ne pas les interrompre en utilisant les différentes capacités, les interventions de vos coéquipiers et les coups en l'air, en bas, les coups normaux, les coups spéciaux, etc. Et c'est vraiment super satisfaisant. Et le jeu en lui-même, que j'avais trouvé un peu cucu au début, quand je l'avais lancé, eh ben, l'histoire, alors, ça ne devient pas incroyable non plus, mais l'histoire devient quand même un petit peu plus nuancée, on va dire. Ça reste relativement simple et c'est... Allez, c'est un jeu japonais, donc il y a énormément de clichés qu'on associe au jeu japonais. Mais bon, il y a un petit peu plus de subtilité aussi. Le propos est... Bon, classique, mais pas inintéressant. Et puis surtout, ce gameplay est hyper satisfaisant. Je prends énormément de plaisir. Ça devient un petit peu automatique, mais il est très différent de ce qu'on a trouvé ailleurs. Et la mécanique, une fois qu'on rentre dedans, est vraiment plaisante. Le moment-to-moment gameplay, le jeu... En pratique, quoi, quand on y joue, est vraiment plaisant. Alors, on me demande dans la chatroom si j'ai pas été déçu par les dernières heures du jeu. Je suis pas tout à fait à la fin, encore. Il me reste une ou deux zones à explorer. Mais jusqu'à maintenant, non, j'ai vraiment été assez satisfait. Encore une fois, parce que je m'attends pas non plus à quelque chose de totalement incroyable. Les personnages sont relativement intéressants, la manière dont l'histoire évolue. Alors, il y a quand même beaucoup de passages où ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils discutent. Il y a vraiment une grosse différence entre les jeux occidentaux et japonais, j'allais dire asiatiques, mais japonais puisque c'est ceux-là que je connais. Dans les jeux occidentaux, on a vraiment le rôle du héros et il y a assez peu de doutes, assez peu de discussions sur la mission qu'on doit accomplir dans les jeux occidentaux, souvent. Et même quand c'est une histoire qui est faite dans la fragilité, comme, je ne sais pas, au hasard de Last of Us, on a cette sorte d'individualisme qui est caractéristique des sociétés occidentales, contrairement aux sociétés asiatiques, et on le ressent vraiment dans l'essence du jeu. Et il y a beaucoup de doutes, ils disent, ils questionnent ce qu'ils savent, ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent du monde qui les entoure, et puis ils se reposent beaucoup les uns sur les autres. Alors c'est évidemment, c'est ce jeu-là qui est particulièrement comme ça, il y a des nuances dans tous les jeux et dans tous les styles, hein, mais j'ai trouvé que c'était assez notable dans celui-là, et c'est relativement rafraîchissant. Alors, dans les jeux japonais, il y a beaucoup de ces éléments qu'on finit par trouver, mais je n'avais pas fait beaucoup de jeux japonais ces derniers temps. Donc, c'est une bonne surprise. Et le jeu, vraiment, est, pour le coup, on sent... Alors, c'est un budget double A, on va dire. Il y a, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans, ça aurait été un méga triple A. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un double A. On sent qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais on ressent aussi que, contrairement, encore une fois, à ces super méga productions souvent occidentales, on ne va pas s'emmerder à faire des zones explorables où on va pouvoir passer à travers les feuilles. Non, là, on a des sortes de couloirs avec quelques embranchements qui nous mènent toujours au même endroit, les monstres qui sont posés là, un ou deux objets qui sont posés là, et voilà, tu avances dans le truc et on n'a pas le budget pour faire quelque chose de totalement fou. On va s'extasier devant le réalisme où on va avoir 10 000 quêtes super complexes intégré à l'histoire et machin. Non, on a une histoire qu'on suit, quelques scènes cinématiques, et dans le design vraiment du jeu lui-même, on est dans quelque chose de très, je dirais, mécanique. C'est-à-dire qu'ils établissent le système du jeu, et puis ils vont construire des niveaux dessus, un petit peu comme on le faisait à l'époque de, la PS2 début 2000, quoi. J'exagère un petit peu, mais vraiment, vraiment à peine. La structure du jeu est simple, Mais efficace, hein. C'est pas du tout une critique, c'est juste une question de budget, c'est simple et ça fonctionne. Tales of Arise, j'y ai passé un très bon moment, alors que Final Fantasy VII Remake, j'avais été assez déçu. Et du coup, j'ai presque fini, j'ai pas encore fini, mais j'espère que j'aurai fini très bientôt. Et qu'est-ce que je vais faire après ? Parce que maintenant, je me dis, les jeux solo... Je veux essayer d'y passer un petit peu plus de temps. Maintenant que j'espère avoir un petit peu plus de temps pour jouer, ben je veux essayer de finir plus de jeux parce que c'est, allez, 2-3 dernières années, je n'ai pas vraiment pu. Et le prochain jeu que je voudrais revisiter et reprendre le temps de faire, c'est Horizon Forbidden West, évidemment, qui a été, on va dire, absorbé comme le premier, malheureusement, complètement assassiné par, j'exagère assassiné, mais en tout cas qui a été, comment on dit ? Éclipsé, voilà, c'est le terme que je cherche, qui a été éclipsé par, je voudrais dire Oktoberfest, mais on sait bien que c'est pas Oktoberfest qui l'a éclipsé, c'est Elden Ring. Pas Oktoberfest, Oktoberfest, qu'est-ce que je raconte ? Voilà, c'est Papa à quoi tu joues qui me perturbe. February Apocalypse, donc c'est pas vraiment February Apocalypse qui l'a éclipsé, c'est Elden Ring sur lequel j'ai passé genre 60 heures. Que je n'ai pas fini, malheureusement. J'en avais eu ma dose après 60 heures. Et d'après ce que j'avais compris, j'étais à peu près à la moitié du jeu. Donc je me suis dit, OK, on va se calmer. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais on va s'arrêter là. Peut-être que j'y reviendrai un jour, d'ailleurs. Mais du coup, après avoir fini Tales of Arise, j'aimerais revenir vers l'Occident. Et on me demande aussi dans la chatroom, est-ce que tu as vu le parallèle avec Horizon 2 au niveau de l'histoire ? Eh bien, je n'ai pas fini Horizon 2. Mais déjà, j'en décèle un petit peu des similarités. J'avais fait quand même quoi, 15 heures sur Horizon 2, donc j'ai un petit peu avancé, peut-être même un peu plus, une vingtaine d'heures. Mais je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Et j'aimerais le finir pour pouvoir vraiment en parler au moment des GOTY et savoir ce que j'en penserai. Et je voudrais le faire avant que God of War 2 n'arrive. Et ça, bon, on a encore un petit peu de temps, mais il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Et du coup, j'aimerais pouvoir le finir en août. Je ne sais pas si je pourrais. Allez, on va se laisser septembre aussi, parce qu'en octobre, il y a plein de choses qui arrivent. Et notamment Overwatch 2, sur lequel j'ai passé également pas mal de temps. J'étais dans la bêta. Et c'est marrant parce que Overwatch 2, on est vraiment, comme je l'expliquais, et je crois que j'en parlais déjà au moment de la première bêta, on est vraiment dans une évolution d'Overwatch qui est ce qu'aurait été Overwatch 1 s'il n'y avait pas eu ces 2 ou 3 ans quasiment sans update. Le jeu est un peu différent, mais il n'est pas très différent de ce que serait devenu Overwatch 1, je pense. Donc on est vraiment dans la continuité. Et je crois que les premières réactions de beaucoup de gens ont été... Oh bah c'est la même chose, donc voilà, c'est chiant, pas besoin d'en faire toute une histoire. Et je crois que même ma première réaction a été plus ou moins de cette nature. Et s'hydrater la gorge encore. Et en fait, au bout de quelques semaines, on en a discuté avec quelques personnes qui avaient accès à la bêta aussi, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que, bah en fait, Overwatch 1, c'est un jeu qui est vachement bien. C'est un jeu qui est vachement bien, Overwatch 1. La raison pour laquelle on a arrêté d'y jouer, c'est que, et même certains y passaient du temps de temps en temps, bah, c'était pas qu'il était pas bien, c'est qu'un jeu comme ça, un jeu service, il faut du nouveau contenu pour te pousser à continuer à un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement, quoi, pour que la monotonie ne s'installe pas trop. Et c'est pour ça qu'on avait arrêté de jouer à Overwatch 1, pas parce qu'il était pas bien. Donc un Overwatch 1 qui continue à évoluer avec... des mises à jour intéressantes, bah, je crois que je suis client. Et c'est marrant parce que pendant que la bêta était disponible, mais naturellement, je me dirigeais plus vers Overwatch que sur d'autres jeux. Parce que, comme beaucoup de ces jeux-là, tu peux y aller faire une partie, ça dure 10 minutes, et puis tu t'arrêtes, tu en fais une ou deux, t'as une petite session courte, quand t'as pas beaucoup de temps, bah, ça suffit. Et si tu veux jouer longtemps, tu peux tout à fait y jouer 2 heures et tu vas beaucoup t'amuser pendant 2 heures. Et franchement, après le moment où qu'il a fallu pour s'habituer aux nouveautés, eh ben, je m'amusais énormément, quoi. C'était fun, c'était excitant, comme Overwatch à l'époque. Alors, j'ai des centaines d'heures sur Overwatch, hein, donc je suis vraiment le client de ce jeu-là. Donc, évidemment, sur moi, ça marche peut-être parce que je suis client à la base. Mais il n'empêche, l'activité sur la bêta semblait assez importante. Les gens en parlaient avec plutôt un a priori positif. Donc, ouais, c'est quelque chose de... Alors, je ne parle pas de l'aspect monétisation. Hein. Ça, il faudra voir quand il sortira, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, et on l'a vu avec, avec d'autres jeux. Mais sur l'aspect jeu lui-même, moi, je pense que quand il va sortir en octobre, pour moi, en tout cas, ça va être Overwatch Fiesta pendant un moment. Et surtout, je crois qu'ils ont une opportunité très sérieuse de ressusciter le jeu. Ils ont une possibilité, en plus en free-to-play, il y a quelques, c'est hyper accessible, etc. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'en refaire un jeu très populaire, peut-être pas autant qu'il l'était au moment de la sortie en 2016, où il avait vraiment tout conquis, mais de le ramener sur le devant de la scène. Donc à voir s'ils réussiront à transformer l'essai. Mais mon expérience dans la bêta me laisse penser que, et je suis pas le seul, bah, c'est quand même un jeu qui continue à avoir un gros potentiel, quoi. Et là, on parle seulement de la partie PVP. On verra ce qui se passe avec la partie PVE quand elle arrivera. Donc, l'autre chose dont je voulais parler, c'est Wild Rift, sur lequel j'ai passé pas mal de temps aussi. Je me suis remis à Wild Rift. Et bon sang, qu'est-ce que le jeu est bon! D'ailleurs, il y avait une news intéressante sur une estimation d'un cabinet d'études. Alors, il faut toujours prendre ces choses-là avec des pincettes, mais ils ne se plantent pas non plus, c'est pas 10 fois plus ou 10 fois moins. Ils ont estimé que Wild Rift avait rapporté depuis son lancement, il y a un an et quelques, 500 millions de dollars, ce qui est plus que Teamfight Tactics et Legends of Runeterra. Attention, sur mobile, hein. Ces deux autres jeux sont également dispo sur PC. Donc, il est tout à fait possible que les gens dépensent plus d'argent, mais sur PC. Mais 500 millions sur Wild Rift, je pense que ce n'est pas un échec. Et j'étais curieux du succès du jeu. Et visiblement, c'est le jeu Riot Games qui rapporte le plus, encore une fois, sur mobile. Il y a peut-être beaucoup plus d'argent qui rentre sur ces autres jeux en achat sur PC. Et il marche très très fort en Chine, surtout. Visiblement, 72% des dépenses se sont faites en Chine. Ça fait presque, ça fait environ un an qu'il est sorti. Donc, c'est très très fort en Chine, mais le jeu reste franchement super bon, super sympa. Et moi, j'y ai passé aussi pas mal de temps. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Il y a Valorant qui va arriver sur mobile aussi. Enfin, vraiment, Riot est à fond sur mobile. J'espère que Wild Rift arrivera sur console à un moment. Ils en avaient parlé au lancement du jeu. Et puis, c'est calme plat, silence radio. Plus personne ne parle de la version console. Alors, je ne sais pas s'ils ont décidé de ne pas la sortir. Il n'y a eu aucune info là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des gens de Riot qui écoutent cette émission. Je sais qu'il y en avait des un petit peu haut placés qui écoutaient l'émission il y a longtemps. Si vous écoutez et que vous n'êtes pas en vacances et que vous écoutez encore, j'aimerais bien savoir si c'est toujours prévu pour console à un moment, parce que le potentiel est vraiment important. Il y a une qualité de gameplay sur le jeu qui est incroyable. Et si ça peut marcher sur console, et je n'ai pas de raison de douter du fait que ça puisse fonctionner, parce que Pokémon Unite fonctionne très bien sur Switch, en plus de la version mobile, j'aimerais bien que ça arrive, quoi. Parce qu'il faut avouer que j'adore y jouer sur mobile, c'est quand même encore plus cool d'y jouer avec une manette, dans mon cas, qui suis habitué aux manettes, quoi. Entre parenthèses, Diablo Immortal, malgré son modèle économique assez critiquable, on va dire, aurait déjà rentré 100 millions de dollars sur mobile. Et il est sorti il y a quoi, 2 mois, quelque chose comme ça. Donc 100 millions de dollars, je pense que les jeux mobiles Blizzard, on risque d'en avoir plusieurs. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont visiblement annulé un jeu qu'ils développaient avec, c'était avec Tencent, NetEase, hein, une version mobile de World of Warcraft qu'ils ont annulé parce qu'ils n'étaient pas sûrs de qui devait prendre quelle partie des revenus. Et ils travaillaient dessus depuis 3 ans, il y avait une équipe de 100 personnes chez NetEase et le jeu a été annulé. Bon, bref, on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà pour les jeux auxquels j'ai joué pendant mes vacances. J'ai très hâte d'arriver à un moment où je pourrais faire revenir sur Horizon, parce que c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé commencer. Et puis on fait quelques petites news, on se lance dans quelques petites news supplémentaires. Un petit retour sur l'épisode précédent. Tiens, je vais lire un commentaire, non, pas modifié, lire un commentaire qu'on a laissé sur le blog. Alors, l'épisode précédent, je l'ai vraiment trouvé sympathique, hein, avec JK, Eska et Dani. Il y a quand même quelques trucs où j'ai écarquillé les sourcils, notamment quand il commentait sur GTA, en disant qu'ils avaient dû, ils espéraient que le personnage féminin soit intéressant. Alors oui, on l'espère tous, mais à aucun moment on dit qu'on espère qu'un personnage masculin, enfin qu'un homme serait intéressant. Enfin si, on l'espère tous, mais le dire comme ça, c'était un petit peu bizarre, donc ça va un peu. Et puis c'était marrant de dire ah, j'arrive pas à m'identifier au personnage féminin, ce que je peux comprendre. Alors que deux secondes après, ils parlaient de jeux avec un chat et visiblement, ils n'avaient pas de problème de s'identifier au personnage félin, on va dire. Mais bon, je les connais, je sais que ce n'était pas dit méchamment. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, mais je voulais le mentionner. Et puis mentionner aussi le fait que pour le jeu Black Panther, je les ai trouvés hyper durs. Alors, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Marvel, mais vraiment, il n'y a pas de raison de se dire... Enfin, l'idée qu'ils développent un jeu Black Panther pour capitaliser sur la mort de Chadwick Boseman, qui jouait Black Panther dans le MCU, c'est quand même particulièrement cynique, quoi. Black Panther, c'est un personnage qui est un des personnages importants de l'univers Marvel. Et puis en plus, dans le MCU, et cinématographiquement et culturellement... Le film Black Panther a eu un impact énorme sur des communautés qui s'estimaient, enfin qui étaient sous-représentées dans le cinéma et surtout dans le cinéma de super-héros. Enfin, il n'y a aucune raison de se dire le jeu Black Panther, c'est de l'exploitation plus que n'importe quel autre personnage. Enfin, le faire le lien avec la mort de Chadwick Boseman, c'était un petit peu étrange, on va dire. Alors oui, on me dit Disney et le cynisme, ok, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je dis pas que la société n'est pas cynique, mais c'est pas parce que Chadwick Boseman est mort qu'ils se sont dit « Ah, le héros est mort, vite, vite, on va faire un jeu Black Panther ». Enfin, ça n'a pas de sens, soyons sérieux deux secondes. Je veux bien qu'on soit critique de certaines choses, mais non, là, je suis désolé. Bon, et puis je voulais dire quelques mots sur Stray, mais ils en avaient assez parlé en termes élogieux, donc je vais m'abstenir. Et puis quelques mots sur les différents constructeurs. On a quelques news du côté de Microsoft, Nintendo et Sony. Halo Infinite, la campagne ne pourra pas être faite en... Il n'y aura pas de matchmaking pour la campagne. Ça sera uniquement avec des personnes qu'on connaît. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais ça dénote surtout, à mon avis, du fait que ils sont pas hyper intéressés par l'idée de pousser Halo plus qu'ils ne le font déjà. Peut-être qu'ils sont super concentrés sur le multijoueur qui n'arrive pas à faire décoller ou à refaire décoller plutôt. Et puis autre news, il y a Discord qui va être intégré au système Xbox. C'est marrant parce que c'est Sony quand même qui est... ils ont beaucoup investi dans Discord. C'est pas qu'ils l'ont racheté, je vais pas dire de bêtises. C'est pas qu'ils ont racheté Discord, mais ils ont beaucoup investi dans Discord et Discord n'est pas intégré à PlayStation, enfin au système PSN. Le jour où ça le sera, ça sera quand même pratique parce que on pourra avoir notre équipe d'amis sur Discord. Si j'avais des amis, ça serait cool, mais on pourra avoir notre équipe d'amis sur Discord et du coup passer d'une console à l'autre ou même jouer à des jeux différents et continuer à chatter. Peut-être qu'on se mettra à faire ça sur le Discord de la communauté. Ça serait... Mais bon, j'imagine que ça va arriver sur PlayStation aussi, et c'est déjà en cours sur Xbox, pour les insiders. Donc, on aura quand même un système un petit peu unifié. Bien sûr, Nintendo étant dehors de ça, hein, ça ne surprendra personne. Ils protègent les enfants chez Nintendo, et on ne chatte pas avec les gens sans avoir donné ses codes amis à tout le monde, et donc on ne passe pas par les systèmes Discord. Mais ils ont acheté une société d'animation. J'ai trouvé ça intéressant comme news, que je retrouve le nom de la boîte. Dynamo Pictures. Alors, ils avaient déjà travaillé avec eux. C'est une société qui faisait des projets pour certains, pour de la télé et pour des jeux même. Ils avaient travaillé sur Nier Replicant version 1.22474487139 et Death Stranding. Ils avaient aussi travaillé un petit peu avec Nintendo. Bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Nintendo qui rachète une boîte d'animation. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'en servir pour les jeux, peut-être ? Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont se mettre à développer des produits animés eux-mêmes en images de synthèse, hein, est-ce qu'ils vont faire des séries Mario ou des séries Zelda ou des séries Metroid, enfin ils ont énormément de potentiel évidemment, énormément de personnages et peut-être qu'ils se disent bon bah on travaille avec, on pourrait travailler avec je sais pas Netflix ou Dieu sait qui, mais on pourrait aussi le faire nous-mêmes, ça pourrait être une manière de développer notre offre transmédia. Je sais pas si c'est juste avec cette petite société que ça décollera, mais j'avais trouvé ça intéressant comme rachat. Et puis, on a des chiffres sur les résultats de Nintendo. On est à 111 millions de Switch vendus. Alors, il y a eu un ralentissement cette année en raison de la pénurie de composants. La demande reste forte, mais il continue à... Enfin, là, on en est à donc 111 millions. On devrait atteindre les Alors, ils disent qu'ils voudraient en vendre 21 millions sur l'année fiscale et donc on devrait atteindre les 128 millions de Switch dans le monde à la fin de l'année. C'est la news de Gamekult qui me confirme ces chiffres. La PS4, elle est, qui s'est quand même très très bien vendue, elle était à 117 millions et la plus grosse console, c'était la PS2 qui s'était vendue à 155 millions. La DS, c'était 153. Je crois que c'est la deuxième, la DS. Donc, ça fait que la Switch est déjà troisième. Je vais regarder les chiffres sur Wikipédia, qui maintient une liste de tout ça. List of best-selling game consoles. Ah ben non, il y a la Game Boy et la PlayStation 4, bien sûr. Donc, la première, c'est la PlayStation 2, encore aujourd'hui. Et donc, la Nintendo Switch est cinquième. Elle devrait passer sans doute quatrième, voire a priori troisième, effectivement, d'ici la fin de l'année. Donc, succès qui continue à ne pas se démentir pour la Switch. Et de l'autre côté, Sony en est à 21,7 millions de PS5. Au 30 juin, on n'a pas les chiffres de Microsoft, hein, qui ne donne plus les chiffres pour sa Xbox depuis un moment. Mais Sony en est à 21,7 millions. Alors, on est en dessous pour Sony de la PS4. Vous vous souvenez, je vous disais qu'au début de la vie de la PS5, ils en vendaient autant que de PS4. Là, ce n'est plus le cas. Et étant donné la pénurie, bah, ils n'ont pas réussi à en produire autant. Par contre, ils annoncent qu'a priori, pour les vacances, la production devrait très sérieusement s'accélérer. Enfin, la production est en train de s'accélérer pour qu'il y en ait assez pour les vacances. Et donc, peut-être que les chiffres remonteront au moment des vacances et que la disponibilité sera plus grande. Donc, peut-être que les PS5 se vendront bien ces vacances-là. Du côté, on me demande pour quelles vacances. Quand on parle de les vacances, c'est la période de vacances de Noël. Hein. C'est toujours de ça qu'on parle. Au niveau marketing et année fiscale. Donc, ça sera pour la fin de l'année que ça se facilite l'accès au PS5. Au niveau de la VR, Meta a augmenté le prix de son Quest 2 de 100 $, donc une centaine d'euros. C'est peut-être pour les composants qui sont plus chers. Mais Sony a aussi teasé quelques infos sur le PSVR 2. Il y a un mode see-through, donc on peut voir à travers le casque grâce aux caméras qui sont devant, qui est bien foutu. Il y a un mode broadcast pour se filmer en train de jouer à la VR, ça c'est pas mal. Et puis un mode cinématique pour les jeux non VR, ou même des films ou des trucs de ce genre. Donc peut-être que ça fera un écran géant devant vos yeux avec le casque de VR, à voir s'il sera confortable à porter. Le mode see-through, le mode vue extérieure, est évidemment la chose la plus importante, parce qu'avec les casques VR, vous en savez quelque chose si vous avez testé, on a toujours un risque de se prendre un canapé en marchant. Donc ça peut être pratique. Quand on sort du cadre qu'on a établi dans sa pièce, il y a déjà un truc qui marche très très bien pour faire ça avec le Quest, et ben ça vous montre l'extérieur du casque et donc comme ça vous savez où vous en êtes. Quand vous êtes dans la zone en question, et ben vous avez l'image du casque, mais si vous en sortez, ben il va vous afficher ce que vous devriez voir si vous n'aviez pas le casque, souvent en noir et blanc d'ailleurs. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Ça nous mène d'ailleurs à la question combien coûtera le PSVR 2 ? Et je sais qu'il y a plusieurs avis là-dedans. Moi, je pense qu'il ne peut pas coûter plus de $399, enfin, ou euros. Mais certains n'en sont pas certains, justement. Peut-être qu'il y aura une astuce, je crois que c'est Johan qui suggérait ça, 399 sans les manettes. Mais bon, il faudrait quand même que les manettes soient incluses pour tout le monde. Mais moi, je n'imagine pas le PSVR 2 coûter plus cher que la console elle-même. Attendez, la console, c'est 500. Donc bon, il y a encore un petit peu de marge. Mais moi, j'imagine 400. Moi, je dirais 400 pour le PSVR 2, mais on verra. Et puis, dernière news pour PlayStation. Il y a pour le PlayStation Plus Tony Hawk Remake, Yakuza Like a Dragon, qui arrive en août. Donc là, on est... Ah, mais c'est déjà le cas. Il faut que j'aille les télécharger. C'est le mardi, le premier mardi. Donc, il faut que j'aille les récupérer. Donc, Tony Hawk Remake, et c'est le 1 et 2. Et Yakuza Like a Dragon, qui n'est pas sorti il y a si longtemps. Qui était déjà passé dans le Game Pass, d'ailleurs, comme les jeux Yakuza, qui arrivent dans le PlayStation Plus. Tous les jeux Yakuza arrivent dans le PlayStation Plus, là encore, c'est un petit peu comme le Game Pass. Donc, si vous avez une PlayStation et que vous n'avez pas fait les Yakuza, vous pouvez vous précipiter. Entre parenthèses, la prochaine mise à jour de la PS5 supportera le 1440p en natif. Aujourd'hui, c'était du 4K qui était downscalé. Donc là, ça sera en natif. Peut-être que ça donnera des performances un petit peu meilleures pour les jeux qui supporteront, bien sûr. Donc voilà, et puis oui, on me dit il y a un troisième jeu offert, je crois qu'il y en a un troisième, tac tac tac, genre un jeu, oui c'est Little Nightmares, c'est ça, c'est le jeu PlayStation 4 qui sera offert, et Little Nightmares, je crois que Trinity nous en parlait à un moment, ça a l'air d'être un jeu d'horreur si je ne me trompe pas. Bon allez, on termine avec quelques articles intéressants. D'une part, un article hyper intéressant dans le Washington Post sur les difficultés des streamers avec la réception. Le truc qui est intéressant, c'est que, alors évidemment, ce n'est pas les gros streamers, hein, mais il y a beaucoup de streamers moins bien établis qui sont des gens qui ont une présence assez stable, qui, avec la récession, se trouvent impactés parce que, non pas à cause des subs, parce que ça, c'est souvent une partie minime des revenus des streamers, on va dire des moyens, des termes, des streamers à niveau moyen, mais parce que les sponsoring, eux, sont impactés. Et donc, il y a des boîtes qui shiftent leur budget sur d'autres streamers. Et du coup, bah, y a beaucoup de streamers qui ressentent la récession. Et je vous avoue que même moi, alors moi, je suis un petit peu protégé parce que j'ai différentes sources de revenus, mais c'est vrai que ça commence à se ressentir au niveau du soutien participatif, notamment sur Patreon. Alors maintenant, c'est les vacances, machin, il n'y a pas de panique, hein, je vous dirai le jour où ça commencera à être un problème. Mais on commence à le ressentir un petit peu. Donc, je me demande... Alors, pour les très gros, ça ne va pas forcément être un gros problème, mais j'ai l'impression que ça impacte cette économie aussi. Et moi, je l'ai vu. Pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours un churn qui a lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soutien sur Patreon, qui arrêtent leur soutien, pour différentes raisons. Hein, et il y en a régulièrement... je dirais, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais généralement c'est 10, 20, 30 chaque mois qui arrêtent leur soutien. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de Patreon et machin, parce que pour maintenir le niveau de revenu, bah, il faut que d'autres personnes prennent leur place. Et donc, bon, vous pouvez faire le calcul avec le nombre de personnes que je remercie à chaque épisode, si c'est remplacé ou pas. Oui, il y en a qui reviennent des villes, c'est vrai. C'est de lui que je parlais tout à l'heure, qui me demandait le lien. Mais donc, là, ça fait quelque temps déjà que bah, ce n'est pas renouvelé. Et du coup, je touche du bois, je remercie ma prévoyance d'avoir mis la pub, parce que ça me permet de voir venir. Mais c'est le genre de baisse qui se compte en quelques pourcentages. Et au bout de quelques mois, si ça continue... ça peut commencer à devenir préoccupant sur la tendance. Alors, encore une fois, maintenant, c'est vacances, c'est peut-être machin. Mais si moi, je le ressens, j'imagine que pour des streamers qui sont encore plus affectés par ce genre de choses et qui tiennent sur un ou deux contrats avec un sponsor, bah, ça peut être vraiment problématique. Pareil avec les YouTubeurs moyens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur un jeu, qui sortent beaucoup de vidéos et pour lesquels la pub dans les vidéos ou les pubs sur Twitch, etc. représentent une partie des revenus. Et après, il y a les sponsoring et ils ont un ou deux gros sponsors qui sponsorisent une ou deux vidéos par mois ou ce que c'est. Et pour eux, ça peut vraiment être un gros problème, quoi. Donc, à surveiller. Encore une fois, à ce stade, ce n'est pas encore du tout la panique. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner, c'était si vous êtes abonné Prime, le prix a augmenté, mais vous êtes peut-être encore abonné, eh bien, il y a un jeu que vous apprécierez peut-être qui est offert ce mois-ci, c'est StarCraft Remastered. Donc, vous pouvez aller le récupérer, c'est parmi les jeux gratuits. StarCraft Remastered, gratuit pour les abonnés Prime, donc ne le ratez pas. Et enfin, en conclusion, deux articles, ou même deux séries d'articles, vraiment excellents, que j'ai lus cet été. D'une part, alors tous les deux sont sur Gamekult, et tous les deux sont pour les abonnés premium, donc bon, mais d'une part, une enquête sur l'utilisation des données dans les jeux vidéo. C'est une enquête de Virgile, qui a fait plusieurs de ces enquêtes au long cours, enfin des enquêtes vraiment avec beaucoup de recherche, vraiment travail journalistique, pour le compte de Gamekult. Elle est en deux parties. La première se focalise sur les jeux mobiles, la deuxième se focalise sur les jeux plus traditionnels, console, PC. C'est vraiment hyper intéressant, c'est la manière dont les données sont utilisées par les data scientists, data analysts, data engineers, dans le design de jeu. Sans vous spoiler, ce qui est intéressant à noter, c'est les différences entre l'utilisation dans le mobile, qui est très orienté économie, et dans les jeux consoles, on va dire, où il y a une résistance à vraiment impacter le design. Donc, j'ai trouvé l'enquête plutôt rassurante. Bon, le jeu mobile est très, très impacté par ça, on le savait déjà, mais plutôt rassurante, même s'il faut être vigilant, pour ce qui est des jeux consoles, mais dans tous les cas, intéressant pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils utilisent, à quel moment ça impacte le développement, etc. Donc, une très belle enquête de Virgile. Et l'autre truc que je voulais mentionner, c'est le dossier, encore un dossier estival chez Gamekult, le dossier sur l'histoire de Square Enix en fait, l'histoire de Square et Enix, qui est un dossier qui est en fait écrit par notre ami... par Oscar Lemaire, qui est un dossier qui est déjà publié sur Ludostri. Alors, il se trouve, moi, que je soutiens Ludostri aussi, donc je soutiens les deux, mais il était publié sur Ludostri, et là, il arrive sur Gamekult. Le premier épisode est gratuit, et c'est déjà une bonne vingtaine, trentaine de minutes de lecture, et il y en aura 6 ou 7 en tout, ouais, 7 chapitres, même plus, 10 chapitres au cours de l'été jusqu'à mi-septembre, un par semaine, et c'est vraiment passionnant. Il y a tout qui est détaillé, de la naissance des sociétés, la manière dont ils sont rivales, comment elles fonctionnent, etc. etc. Et donc là, on en est avec le troisième chapitre à la partie, l'arrivée de la PlayStation dans l'histoire. C'est évidemment des moments qui ont impacté toute l'industrie du jeu vidéo. Et c'est un moment d'histoire. Et c'est vraiment, enfin, on pourrait... Je pense que Oscar pourrait en faire des livres de ces dossiers. C'est tellement documenté, fouillé. Enfin, il y a des qualités qui sont absolument indéniables. Et la mise en page est également hyper agréable. Donc, je vous les recommande. Ces deux dossiers, donc un de Virgile et un de Oscar Lemaire sur Gamekult. Encore une fois, le premier chapitre de la saga de l'été d'Oscar est disponible sans être abonné sur Gamekult. Et entre parenthèses, il cite également, comme dans un bon papier académique, toutes ses sources à la fin de chaque chapitre. Donc, il fait les choses très très bien, l'ami Oscar. Donc, ça vous fait de la lecture pour l'été. Si vous en voulez encore un petit peu, eh ben, vous pouvez aller écouter par exemple Super Laser Punch, le podcast où on parle de films et de séries Marvel avec l'ami Johan. On vient de faire un épisode sur toutes les annonces de la Comic-Con, avec tout ce qu'ils ont annoncé pour le MCU, pour la phase 5 et 6. Donc, vous pouvez aller écouter Super Laser Punch. Les liens sont sur notepatrick.com. Et pour ma part, tout ce que je fais, c'est sur notepatrick.com aussi, les podcasts, le rendez-vous tech, hein, chaque semaine. Vous avez aussi la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous voulez les news chaque semaine tech. Bon, là, on est un petit peu en pause pendant l'été. Et puis, le Patreon, bien sûr, patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission, donc vous ne pouvez pas les rater. Si vous souhaitez soutenir l'émission et faire partie de la grande famille des Patriotes, vous pouvez nous rejoindre, patreon.com/rdvjeux. Un petit les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Patrick ! Cling, Patrick ! Ah, il faut que j'aille regarder sur Patreon !» Ou alors, vous pouvez le faire maintenant, tout de suite, sur votre téléphone mobile intelligent. Ça prend 2 minutes et vous vous sentirez bien, bien heureux quand vous l'aurez fait, si vous choisissez de le faire. En plus, vous avez des super bonus. Et que vous soyez patriote ou pas, venez nous rejoindre sur le Discord. On s'amuse vraiment bien, on parle de plein de trucs, de tech, de gaming et de plein d'autres choses. Le lien est lui aussi sur notepatrick.com ou dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous du coup, pas la semaine prochaine, il y aura cet épisode spécial avec cet invité surprise, semi-surprise, dont je vous parlais, mais la semaine suivante, on sera avec l'invité qui sera dans l'épisode prochain. Donc voilà, double dose de cet invité surprise. Je vous fais de grosses bises, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui ne le sont pas, et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao !